Et en Romains, nous lisions, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Donc il semble plutôt que Alpha et Oméga décrit quelque chose d'entier, quelque chose de complet, quelque chose qui décrit toutes choses. Et donc qui utilise toutes les lettres de l'alphabet pour décrire la création, la vie, etc. Dieu est partout. Et donc, géométriquement, je vais faire comme ça, ça j'imagine. Ah, là, ça va lâcher. Est-ce que la technique peut m'avancer peut-être manuellement? Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Au début, ça a bien marché. Donc, quand je te dis avance, que tu me donnes le prochain diapo. Ah, là, hop, là, ça marche à nouveau. Et le micro glisse un peu. Donc, géométriquement, quelque chose que je crois qui peut plus décrire ce alpha et oméga est un cercle. Parce que nous savons qu'un cercle, ça n'a pas commencement et fin. C'est quelque chose d'entier, donc un diamètre dans ce cercle. Et donc, je veux que vous reteniez le cercle. Donc, quand on fait une étude, et je veux dire que cette prédication aujourd'hui, c'est juste une première partie d'une étude sur le livre d'Apocalypse, quand on fait une étude du livre d'Apocalypse, on voit rapidement que nous ne nous trouvons pas dans un livre isolé du reste de la Bible, mais un livre qui cite énormément l'Ancien Testament, donc un livre qui peut être lu que dans le contexte de la Bible entière. Par exemple, nous voyons à gauche l'arbre de la vie dans le livre de Genèse, à droite aussi l'arbre de la vie en Apocalypse. À gauche, la manne, donc le pain qui est venu du ciel, à droite aussi l'Apocalypse qui décrit la manne cachée. Et certains versets se ressemblent énormément. Par exemple, en Joël 3:4, nous lisions « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. » À droite, donc en Apocalypse, « Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. » Donc, nous voyons bien, il y a des éléments dans l'Ancien Testament qui se trouvent dans le livre d'Apocalypse. Et des fois, ça peut confondre, mais qu'est-ce qu'il veut de tous ces éléments dans un livre qui décrit l'avenir? Et puis, je réfléchis par rapport à cette question et je crois que le Seigneur m'a révélé une certaine chose, une certaine logique qui fait qu'on arrive mieux à comprendre le livre d'Apocalypse. Donc, l'Ancien Testament décrit à gauche la création jusqu'à l'œuvre de la croix, par prophétie aussi. Nous avons le Nouveau Testament qui se cible autour de l'œuvre de la croix et les 100 ans qui suivent. Et le livre d'Apocalypse, il me semble, décrit l'histoire, mais dans l'autre sens. Donc je vais expliquer ça. Donc Jésus-Christ, l'œuvre de la croix, on va dire à peu près à 30 après Jésus-Christ. Quand on remonte le temps, donc l'histoire du peuple juif, donc en haut on prend voilà, le demi-cercle à gauche, nous reculons dans le temps jusqu'à la création. Dans l'autre sens, l'œuvre de la croix et le livre d'Apocalypse, nous avançons dans le temps et nous voyons à un moment une création des nouvelles terres et des nouveaux cieux. Et les éléments se semblent énormément, il y a énormément de parallélités ou parallèles, et je vais vous décrire juste une partie du demi-cercle parce que le temps ne sera pas suffisant aujourd'hui pour faire le cercle entier. Donc nous nous trouvons dans une partie une d'une prédication. Donc aujourd'hui, on va couvrir énormément d'années dans l'histoire de l'humanité, donc l'histoire du peuple juif, mais aussi l'histoire du peuple chrétien. Donc 1450 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à 2019, on peut dire, jusqu'à aujourd'hui. Et vous allez vous me dire, voilà, avec juste une feuille, on ne va pas couvrir tout ça, et c'est vrai, et ça ne sera jamais possible de faire ça dans une prédication. Et donc on va faire quelque chose, on va survoler. Donc, normalement, vous avez comme une prédication un certain passage, on va dire Romains 3, un certain verset jusqu'à un certain verset. Donc on regarde en détail sur une écriture. Mais des fois, il faut reculer, il faut énormément reculer pour voir l'ensemble. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Nous allons beaucoup reculer pour voir l'ensemble des choses. Et donc je commence par l'histoire du peuple juif. Donc 0 jusqu'à 1450 avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, le peuple juif, nous savons bien, c'est un peuple qui se trouvait dispersé dans le monde entier, donc qui n'avait plus d'État, qui était sous oppression, qui était persécuté, et qui vivait sa foi globalement dans une petite communauté. donc en Judée, à Jérusalem, mais partout dans l'Empire romain. Et un des événements qui a le plus marqué le peuple juif est ce qu'il décrit, le livre de Daniel, l'abomination de la désolation. Donc, un événement qui a choqué le peuple juif. C'est un vrai sacrilège, un cochon a été tué ou sacrifié dans le temple du vrai Dieu. Et donc, ça a sali ce temple-là, ça a généré une révolte. Et nous voyons, le peuple juif, il a dû subir pas mal de choses. Avant cette dispersion, il y avait une époque des rois. Et ça couvre aussi des centaines d'années. Vous connaissez le roi David, Salomon, etc. Et je ne vais pas aller dans les détails, mais c'est ce qu'on voit souvent. C'est soit il y a un roi qui faisait ce qu'il est bien devant les yeux de Dieu, ou ce qu'il faisait quelque chose qui était mal. Et donc, le peuple est souvent jugé, ou le comportement du peuple vis-à-vis de Dieu, est souvent jugé par rapport au comportement du roi, et pas individuellement. Donc, on parle d'une religion d'État. Et des fois, ça se passait bien, des fois mal. Avant cette époque-là, il y a l'époque des juges. Et je crois quelque chose qui peut très bien définir cette époque-là est ce verset qu'on trouve à la fin du livre des juges. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc, chacun voilà, faisait un peu sa religion de sa manière. Des fois, il y avait l'idolâtrie. Des fois, il revenait à Dieu. Mais il n'y avait pas vraiment une consistance. Et il n'y avait pas une structure non plus. Et c'était un peuple qui se trouvait en oppression constante par des ennemis. On parle des Philistins, des Midianites. Mais heureusement, il y avait aussi quelques réveils, par exemple Gédéon, Samson, etc. Maintenant, on va faire l'histoire dans l'autre sens. Donc, on a fait l'histoire du peuple juif de 0 à 1450 ans avant Jésus-Christ. Maintenant, on va aller dans l'autre sens. Donc, c'est l'histoire du peuple chrétien. Je vous affirme, ça va être moins intellectuel plus tard. Mais c'est une introduction que je crois qui est importante. Donc, au début, le peuple chrétien, si on veut, se trouve sans gouvernement. Il n'y avait pas une grande structure. Il se rassemblait dans les maisons, mais il subissait aussi beaucoup de persécutions et harcèlement. Donc, la première parallèle avec le peuple juif. Là, nous voyons un graffiti, si on veut, pendant le temps romain, donc 129 après Jésus-Christ, et nous voyons une croix avec un animal dessus. Et cet animal est un âne. Et donc, quelqu'un se moquait d'un chrétien en disant « Alexamenos prie son Dieu ». Il prie une âne sur la croix. À quel point est-ce que c'est ridicule? C'est ridicule cette foi chrétienne d'avoir un âne sur la croix. Jésus-Christ à la croix. Qu'est-ce que ça symbolise? Ce n'est pas une force, c'est vraiment quelque chose qui nous choque plutôt. C'est comme nous, les chrétiens, aujourd'hui, on adorait quelqu'un qui était pendu. C'est comme ça dans la façon romaine à percevoir des choses. C'est une abomination. Comment est-ce qu'on peut faire quelque chose comme ça? Donc, la sagesse de Dieu, folie pour homme. Plus tard, entre Néron, commençaient les premières persécutions des chrétiens. Donc, nous savons que 64 après Jésus-Christ, de nombreux chrétiens furent crucifiés ou brûlés vifs sur l'ordre de Néron. Donc, Rome brûlait, il les accusait, il les brûlait aussi. Il a dit, voilà, je donne mon jardin, on va faire un petit spectacle, un petit feu d'artifice, et il mettait du feu aux chrétiens. Donc, des choses horribles, atroces qui sont produites, mais ça nous rappelle aussi, il y avait des chrétiens qui n'ont pas eu peur de la mort. Qui ont dit, j'affronte ces persécutions, j'affronte ce harcèlement parce que je crois en Jésus-Christ qui est tellement profondément que je suis prêt à donner ma vie. Et là, Robert va nous lire un passage de Pline, qui était gouverneur dans une certaine région, à son empereur Trajan. Et Trajan, à l'époque, n'était pas juste comme Emmanuel Macron, un président ou quelque chose, c'était une divinité. Et donc, il voulait se renseigner sur la persécution des chrétiens. Est-ce que je fais un bon boulot? Est-ce que mes procédures sont correctes? Et donc là, Robert va nous lire ça.
Je les ai interrogés s'ils étaient chrétiens. ceux qui sont véritablement chrétiens. J'ai donc cru qu'il les fallait absoudre.
Donc, je résume ce passage-là. Donc, il y avait tout simplement, il voulait voir qui est chrétien ou pas. Donc, il a demandé à quelqu'un, est-ce que tu es chrétien ? La personne a dit oui. Donc, il a voulu quand même être miséricordieux pour demander encore une deuxième et une troisième fois. Si le oui persistait, voilà, c'était la mort. Ils étaient envoyés à la mort. Et évidemment, avec une procédure comme ça, si tu n'aimes pas ton voisin, tu vas dire, ah, lui, il est chrétien. Et donc, il a eu une liste de quelqu'un anonyme qui disait, voilà, mon voisin, il est chrétien. Et donc, il a dit, voilà, il faut quand même que je cherche, est-ce qu'il est vraiment chrétien ou pas. Il pose la question, si la personne disait non, il allait encore plus loin, il ne laissait pas juste, non, tu n'es pas chrétien, mais il disait, ok, tu vas adorer le César, les divinités à l'époque, et certains, ils ont même insulté et blasphémé Christ, qui nous montre quelque chose sur la persécution des chrétiens. Si, dans un moment, on peut être de faiblesse, on nie le Christ devant ceux qui nous persécutent, ça ne va jamais s'arrêter à « non, je ne suis pas chrétien », mais on sera toujours forcé d'aller plus loin et d'adorer d'autres dieux et de blasphémer le Christ. Et donc ça, c'est un encouragement pour nous de se dire qu'il faut qu'on soit prêt si jamais il y a une persécution qui peut apparaître, qu'on a directement au début, qu'on confesse notre foi et qu'on ne fasse pas des choses floues. Parce qu'à un moment ou à un autre, ils vont nous pousser à aller beaucoup plus loin. Mais les temps ont changé et on peut presque dire miraculeusement. Donc il y avait Constantin Ier qui était même proclamé empereur romain en Bretagne, donc ici. Donc l'empire romain était très grand à l'époque, et qui introduisait une certaine tolérance pour les chrétiens, qui est devenue plus tard une religion d'État. Donc vous voyez la deuxième parallèle, au début la dispersion, la diaspora, comme on dit, et là le christianisme est aussi devenu religion d'État. Évidemment avec des mauvais et des bons rois. Nous connaissons très bien Charlemagne, normalement, parce qu'il est enseigné dans les cours d'histoire, et qui est connu pour la scolarité, qu'il a introduit la scolarité. Mais nous savons aussi beaucoup plus sur lui. Par exemple, il a fait une campagne de mission en Allemagne. Et à l'époque, les Allemands n'étaient pas très chrétiens. Et donc, il y avait un roi qui s'appelait Widukind à droite. Et donc, il est y allé. Il a dit, là, vous allez devenir chrétien, se soumettre à nous. Il ne voulait pas, donc il a décapité 4500 hommes. Et après, Widukind a quand même compris le message et il s'est fait baptiser. Et donc, on voit que le baptême qu'on pratique ici, ça n'a rien à voir avec le baptême qui se pratiquait pendant une bonne période du christianisme. Et cela explique aussi pourquoi des pays, des fois, disons chrétiens, ne sont pas du tout chrétiens à la base, parce qu'il n'y avait jamais eu un vrai réveil, un vrai travail de missionnaire, de confession, d'être convaincu du péché, etc. C'était souvent un instrument de l'État pour imposer une religion. Et cela, on voit bien l'épée à droite, la croix à gauche, cela montre très bien l'attitude de Charlemagne. Donc, si tu ne veux pas devenir chrétien, voilà, je sors mon épée. Ce qui est intéressant aussi, nous croyons, voilà, ça n'a rien à voir avec la Bible, mais si on lise dans les chroniques et les rois, on voit quand même souvent que l'épée était aussi un instrument utilisé, par exemple par le roi Saül pour persécuter ou éliminer les sorcières, qu'il a même consulté plus tard. David aussi n'avait pas le droit de construire le temple parce qu'il avait les mains pleines de sang, ça on sait bien, il a tué énormément de gens. Et Yehu, un roi qui a tué la progéniture de Ahab, a plus tard été aussi par Dieu jugé pour ce crime très sanglant. Heureusement, il y a aussi des prophètes modernes. Donc, comme on trouve les prophètes dans la Bible et les rois, nous trouvons aussi dans l'histoire du christianisme des vrais prophètes. Luther, Calvin, Wesley, Spurgeon. Donc, beaucoup d'hommes avec la foi, la vraie foi, qui sont levés, qui avaient le courage de risquer leur vie et qui annonçaient au roi ou au pape à l'époque, qui était comme un roi, c'est plus le même pape, la même fonction comme aujourd'hui, ce que Dieu veut, ou ce qu'ils ont trouvé dans la Bible par rapport à la volonté de Dieu. Et je me suis dit, là, on peut peut-être juste faire une mini pause et réfléchir par rapport à tous ces hommes et femmes qui ont investi leur vie, qui ont cru à un point de risquer leur vie, de donner leur vie pour que nous en ayons la foi. Ça m'a beaucoup touché. Parce que si, on va dire, les premiers chrétiens auraient dit, voilà, on n'est pas chrétien, le christianisme, le message de la bonne nouvelle ne serait jamais propagé autant. Donc, ce que nous croyons est vraiment bâti avec du sang. Avec le sang des martyrs, il faut le dire. Aujourd'hui, nous voyons, nous entrons dans une nouvelle période parce que la religion d'État, elle est quasiment plus existante, au moins dans le christianisme. Donc, on va sur Wikipédia, on trouve pays ayant une religion d'État et nous voyons principalement des pays musulmans, à part le Vatican, la Suisse, l'Islande, l'Angleterre, mais nous connaissons très bien ces pays-là et ça n'a plus rien à voir avec vraiment une vraie religion d'État. Donc cette période-là, elle est terminée et donc on peut se dire, nous avançons dans le temps par rapport au peuple juif, donc diaspora, roi et juge. Donc maintenant, on est dans le temps des juges, si cette logique veut dire quelque chose. Et donc je me suis posé la question, est-ce que nous sommes vraiment dans un nouveau temps des juges? Je vais relire ce passage de Juges 21-25. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et je trouve que ça caractérise énormément notre société. Ce n'est pas que chacun veut faire ce qu'il est mal, mais chacun fait un peu ce qui lui semble bon. Ah, si c'est bon pour toi, fais-le. Ou, ah, je pense que ça me fait plaisir, donc je le fais. Voilà, allez, c'est bon pour toi. C'est bon pour toi au niveau moral, c'est bon pour toi au niveau spirituel. Il y a tout type de diversité dans l'Église. Des fois des bons enseignements, des fois des mauvaises, mais chacun a sa liberté. Mais nous voyons aussi, comme les Philistins et les Madianites ont persécuté le peuple juif, nous voyons aussi une oppression, une persécution qui monte par... faut juste consulter les portes vertes. Il y a vraiment quelque chose qui bouillonne de plus en plus contre les chrétiens. Et je veux dire aussi, dans notre propre société, il y a des choses qui bouillonnent. Je vous donne un exemple de l'Allemagne actuellement. Donc, il y a des gens qui se sentaient homosexuels ou d'avoir des sentiments homosexuels qui consultaient le pasteur d'une église. Le pasteur, il a prié pour eux, il a eu beaucoup d'entretiens avec eux, et finalement, la personne, elle est tombée dans une dépression. Donc, elle est allée maintenant devant l'État en Allemagne et a dit, voilà, ça devrait être interdit ce type d'entretien parce que la homosexualité n'est pas une maladie et donc il ne faut pas un soin pour ça. Et donc, maintenant, quelqu'un, un pasteur qui veut peut-être consulter quelqu'un qui a des sentiments homosexuels, risque une peine de prison, une amende en Allemagne. Et c'est en ce moment où ça se passe. Et donc, on voit que des choses qu'on lit dans la Bible... des lois de Dieu deviennent de plus en plus attaquées par la société. Et ça, depuis un moment, et dans l'histoire humaine, il y a vraiment de plus en plus de choses où on aime plus ce que dit la Bible, on ne veut plus l'entendre non plus. On lit aussi dans le livre de Juges un récit. Et quand j'ai lu le récit la première fois, ça m'a beaucoup choqué, ça m'a attristé. Et il s'agit de Juges 19, vous pouvez le lire à la maison si vous voulez. Il s'agit d'un viol, un meurtre collectif par la tribu Benjamin. Et cette histoire ressemble énormément à ce qu'on lit par rapport à Sodome et Gomorre. Donc une vraie violence, une vraie méchanceté, et ça dans une tribu de Benjamin. Et on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Un héritage spirituel énorme. Donc, ils sont sortis de l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont vu des miracles et des prodiges de Dieu. Ils avaient les 10 commandements. Mais qu'est-ce qu'ils produisent quelques années plus tard? Des choses abominables dans les yeux de Dieu. Donc, retenez un héritage spirituel énorme. Mais Dieu dit, les accusations par rapport à Sodome et Gomorre contre les populations de Sodome et Gomorre sont graves. Leurs péchés sont énormes. Nous savons bien que cette histoire en Juges 19 s'est mal terminée pour la tribu Benjamin. Elle était jugée à l'époque. Et ça m'a amené aussi dans la pensée, est-ce que nous nous trouvons dans cette période-là? Et là, je vais demander à Robert de lire le deuxième passage.
« Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Puis le déluge est venu et les a tous fait mourir. Ce sera comme à l'époque de Lot. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient. Mais le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre est tombée du ciel et les a tous fait mourir. Il en ira de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra.
Donc voilà un passage de Jésus par rapport aux fins de temps, dit-on, par rapport à son apparition qui va venir, va revenir des cieux, et quel sera l'état de notre société, ou la société où, quand elle va arriver. Ce ne sera pas un état qu'on voit une grande détresse, dans le sens qu'il n'y aura plus à manger, il y aura beaucoup de guerres, etc. Parce que là, on ne peut pas se marier, acheter, vendre, manger, tout ça. Ça sera quand même une période relativement paisible. Mais nous savons aussi que ce n'est pas la vraie paix qui règne, mais c'est une paix artificielle. Et donc, la question, est-ce que nous ne nous trouvons pas dans ce temps-là? Dieu a voulu libérer son peuple de Sodome et Gomorre. Donc, il envoie les anges, il libère Lot, sa femme et ses filles. Et ce qui est intéressant, c'est le comportement de Lot. Même si on voit que c'est un héros de la foi en hébreu, dans la lettre des Hébreux, il semble plutôt pour moi que c'est quelqu'un de minable, quelqu'un qui a fait des mauvais choix, quelqu'un qui n'a pas bien vécu sa foi, on va dire. Mais nous lisons aussi dans la lettre de Pierre qu'il était profondément attristé par ce qui se passait autour de lui. Et j'imagine que Pierre avait cette révélation de Dieu que Lot, en fait, il n'a pas bien vécu. Il n'a pas bien vécu ce Sodome et Gomorre autour de lui. Il voulait protéger les anges d'une mauvaise façon, évidemment. Mais il s'est trouvé dans cette société pleine de péchés, pleine d'adultères, etc. Et ça lui a attristé. Et on peut se poser la question pour nous, est-ce que ça nous attriste ce qu'il se passe autour de nous? Des fois dans nos propres vies, dans la vie de nos familles, est-ce que ça nous attriste? Et j'avoue, des fois pour moi, je suis dans une indifférence parce que c'est trop. Ah voilà, c'est comme ça. Les gens font ça, ou ça se passe comme ça, ou maintenant quelqu'un s'est à nouveau divorcé, ok. C'est la vie, ça continue. Mais est-ce que, je crois, Dieu nous appelle à une certaine tristesse, qu'on soit triste par rapport à toutes ces choses-là, pour qu'on puisse intercéder pour ces gens. Parce que sans une vraie, on va dire, tristesse de Dieu, comment est-ce qu'on peut intercéder? Ce n'est pas possible. Donc je vous appelle ce matin à réfléchir par rapport à tous ceux qui sont autour de vous, qui ne connaissent pas Dieu, parce que nous savons qu'il y aura un jugement. La Bible le dit, nous avons chanté tes promesses, c'était quoi, sans certaines, c'était la lignée qui manquait, mais si on fait confiance à ça, si on dit la Bible est vraiment vraie, évidemment ces choses-là vont arriver. Et ce n'est pas juste des histoires un peu farfelues comme ça. Ah, il faut tout prendre un peu. C'est des images où peut-être ça arrivera, mais dans 500 ans. Et ça m'a aussi rappelé quand Robert a lu le passage par rapport à la persécution des chrétiens, à une histoire qu'on connaît presque tous dans la Bible, dans le livre de Daniel, et l'histoire des trois amis de Daniel. Et voilà, il fallait, je crois, trois fois. Il y avait cette trois fois de dire, voilà, je vais me prosterner devant cette idole-là. Et donc, on voit, il y a toujours les mêmes concepts du diable pour homme à travers l'histoire. Ça se répète. Et donc, s'il y avait des jugements dans le passé, il y aura des jugements dans l'avenir. Ça, c'est sûr et certain. Qu'est-ce qu'il a été l'erreur? Donc, Lot, on va parler de ses erreurs plus tard. Mais maintenant, on va parler des erreurs de sa femme. Nous voyons bien ce qu'elle arrivait, l'ange a dit, ne regarde pas en arrière, elle a fait, et elle était figée, un statut de sel, elle ne pouvait plus bouger. Et je crois, c'est un élément spirituel que la Bible veut nous transférer. Qu'est-ce que ça veut dire? Si nous, on se concentre sur ce monde, ses richesses, ses tentations, etc., spirituellement, on est figé, on ne bouge plus, on est immobile pour l'œuvre de Dieu. Donc ce qu'il nous appelle déjà Jésus, c'est de ne pas se concentrer sur les richesses du monde, mais de sa richesse. sur le royaume des cieux. Et donc, il faut que notre regard il soit vraiment tourné vers Dieu, parce que le plus on fixe notre regard vers Sodome et Gomorre, donc tout ce qu'il offre à notre société, le plus nous nous trouvions, on va dire, physiquement, peut-être même, mais surtout spirituellement, figés. Vous avez peut-être vu cette image-là. Je voulais mettre une photo d'ébauche de la société. Et puis le Seigneur m'a parlé et m'a dit, « Mais Daniel, mets une photo de toi. » C'est la personne, moi, en arrière, c'est moi, à l'âge de 17 ans. Et je faisais comme tout le monde dans le monde, et je vais vous lire un passage par rapport à ça. Et j'ai mis cette image-là, pas pour dire, « Ah, c'est ça, ceux à l'extérieur de l'Église qui luttent avec tous ce Sodome et Gomorre. » Nous, on est différents. Non. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là que vous étiez. Ah, il parle à une église, il dit, certains entre vous étiez ça. Et ça peut choquer, hein, si on lit, voilà, immoralité sexuelle, même des travestis, hein, homosexuels, etc. C'est une église qui était bâtie des pécheurs, cette église de Corinthe. Mais heureusement, ça continue. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Et je crois beaucoup ici ont vécu des choses dures dans le passé, ont vécu une vie dans le péché et qui veulent le suivre de temps en temps. Ça peut être des péchés doux, comme on dit, « Ah, je veux juste avoir un peu plus. » Être avare, la Bible dit, ça peut être une idolâtrie. Ça peut être vraiment une immoralité sexuelle. Moi, je l'ai vécu. Moi, j'étais, vous voyez bien, ivrogne. Dieu m'a libéré, mais ça ne fait pas que toutes ces tentations sont arrêtées et maintenant je suis dans les anges. Ça revient, le diable connaît bien nos faiblesses et il va nous attaquer sur ces points-là. Et c'est là où il faut rester ferme et on va discuter de ça dans un moment. Donc, quoi faire dans cette société qui ressemble beaucoup à Sodome et Gomorre? La Bible nous appelle, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc, je me suis dit, allez, on va voir un peu la vie d'un lion. Donc, qui est-ce que dévore le lion? Vous avez déjà regardé des émissions sur les animaux? J'espère que oui. Ça enseigne beaucoup de choses. Donc, on va réfléchir, le Satan, le diable, qui est-ce qu'il veut attaquer? Donc, d'abord, il veut diviser le troupeau. Parce qu'un petit troupeau se laisse plus facilement attaquer qu'un grand troupeau. On est d'accord? Donc, la division. Après, ils veulent isoler les gens. On est d'accord? Quand tu es tout seul, c'est plus difficile qu'en groupe. Surtout les jeunes dans la foi, qui ont fait un choix pour le Seigneur, il y a 1, 2, peut-être 5 ans, qui luttent avec toutes ces tentations qui étaient si récentes. Ah voilà, si on peut isoler les jeunes, c'est un jeu facile. Hein. Plus les malades. Malade spirituellement, qu'est-ce que ça peut éventuellement signifier? Pour moi, c'est un mauvais enseignement, une mauvaise doctrine, une doctrine qui est malade, qui n'est pas basée sur la bonne fondation de la Bible. Donc si tu crois des choses qui ne se trouvent pas dans la Bible, ou si tu prends juste quelques versets et dis « Ah, ça c'est pour moi, alléluia », peut-être le diable utilise ça contre toi. Parce qu'à un moment, peut-être ça ne marche pas, ces quelques versets que tu as pris pour toi. Et après, il y a le doute qui vient. Et après, tu deviens malade. Et tu dis, voilà, Dieu n'a pas fait ce que je voulais. Et ça ne marche pas pour toi, peut être pour moi, peut être pour toi. Donc, il y a une maladie spirituelle. Fatigué. Il y a beaucoup de gens dans l'église qui disent des fois, ah, j'ai lutté pendant des années et des années, je suis allé à toutes les réunions, j'ai lu la Bible, etc. Je commence à être fatigué. Là, je vais un peu moins parce qu'il faut que je me repose. Je laisse le troupeau un peu en avant et je vais suivre un peu plus tard quand je me suis reposé. Peut-être que ça marche physiquement. Des fois, c'est bien de se reposer. C'est une bonne chose. Mais spirituellement, cette stratégie ne marche pas. Quand nous sommes éloignés des troupeaux parce qu'on dit, voilà, laisse-les faire, je vais arriver un jour. Le diable le sait, isolé, hop, on va l'attaquer. Affamé. Affamé à nouveau spirituellement. Si notre vie spirituelle est très très pauvre, probablement on est sous-nourri et affamé, et donc aussi une proie facile pour le diable. Donc là, quelqu'un va venir et dire, ah, ce dimanche, ça ne m'a rien apporté, j'ai rien appris, je me sens affamé. Et c'est possible des fois que la prédication ne nous parle pas. Ou des fois, ça m'arrive que je vais passer une mauvaise nuit et je m'endors presque sur la chaise. Hein. Mais ça ne justifie pas de, à la maison, de faire notre propre travail, de nous nourrir avec la cuillère régulièrement. C'est-à-dire, je vais manger le matin, midi et soir, je vais me laisser imprégner par la parole de Dieu. Et quelque chose qui m'a beaucoup aidé, un conseil que j'aimerais bien donner, c'est des fois quand tu es seul, tu te sens vraiment attaqué, mets la louange. Mets un CD de louange, quelque chose, l'Esprit de Dieu vient, des choses sont vraiment éclaircies, tu es dans une autre dimension que Dieu permet pour toi. Parce qu'il y aura les vérités qui sont prononcées, et le chant, comme disait déjà Luther, ça vient des anges, c'est quelque chose qui peut vraiment nous construire. Donc, si tu peux aussi sortir la Bible, hein, verset biblique, qu'est-ce qu'il dit ? Dieu me met un mensonge dans la tête, qu'est-ce qu'il dit la Bible par rapport à ça ? Et donc, le diable me met un mensonge dans la tête, et de voir qu'est-ce qu'il dit la Bible par rapport à ça. Endormi, c'est similaire qu'affamé, mais endormi peut aussi être toujours là, à l'église, de faire toutes les routines, mais de le faire tellement endormi qu'on est là, mais on n'est pas vraiment présent. Donc il faut que nous soyons actifs spirituellement si on fait un ministère. Et ça aussi, c'est difficile, hein, surtout dans les routines spirituelles, de dire ce matin, Seigneur, ouvre-moi à nouveau ta parole pour que je sois nourri. Et moi, ça m'arrive souvent, je lis des versets, ah c'est bon, hop, au boulot. Et après, voilà, c'est notre attitude. Distrait. Je crois que le diable utilise beaucoup la distraction aujourd'hui. Nous n'avons plus la télé, mais il y a aussi Internet. Voilà. Mais le diable veut voler notre temps. C'est sa stratégie aujourd'hui. Voler le temps. Il veut empêcher les gens à réfléchir par rapport à leur destin, par rapport à l'éternité. Parce que si tu ne penses jamais à la mort, voilà, tu ne penses jamais à comment est-ce que je peux être sauvé. Hein. Les temps de solitude, les temps de solitude avec Dieu, je parle, les temps de tranquillité, les temps du silence, Dieu peut parler. Mais ça, il faut qu'on permette. Si nous sommes constamment sur nos smartphones, télévisions, etc., et nous remplissons chaque seconde de nos vies, ça va être compliqué. Donc souvent, nous sommes distraits. Il faut qu'on se laisse pas voler notre temps, qu'on soit pas distrait. Donc, on parle maintenant de la stratégie de Lot, que je disais, c'était la mauvaise stratégie. Parce que qu'est-ce qu'on voit ici ? Un petit veau entouré par deux lions. Donc, il s'est mis exprès, sans vraiment savoir à quel danger il risque avec cette stratégie. Il s'est mis exprès tout seul dans la ville de Sodome et Gomorre. Il n'y avait personne autour de lui. Sa foi s'est plus en plus éteinte. Il s'est fait vigoureusement attaquer par le diable. Nous savons aussi que la solitude pour Lot n'était pas seulement dans Sodome et Gomorre, source d'un péché, mais plus tard, quand nous lisons l'histoire avec l'inceste avec ses deux filles, c'est venu à nouveau parce que c'est isolé. Donc, son péché principal était de s'isoler. La stratégie de Dieu maintenant. Donc, quoi faire? Si nous avons vu tous les problèmes qui peuvent exister pour qui nous rendent vulnérables au diable, et donc, Dieu a aussi sa stratégie. Et c'est assez intéressant parce qu'on voit des buffles là, ils sont bien serrés un à côté de l'autre, et là, le diable il a du mal à attaquer. parce qu'il n'y a pas une proie facile. Et donc, je vais lire un verset et je ne veux pas que ça soit mal compris. Donc, je vais dire quelques mots après sur ce verset-là. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Donc il faut vraiment qu'il y ait un lien entre les gens, qu'il y ait une exhortation, un encouragement. Donc si ça n'existe pas, nous sommes isolés. Donc là, on peut se dire, voilà, nous savons que beaucoup de gens ont abandonné cette assemblée. Ce n'est pas un secret. Et comme disait Yves récemment pendant un repas commun, les portes sont ouvertes dans les deux sens. On peut entrer et sortir. Ce n'est pas une secte. Il n'y a pas d'obligation de rester ici. Mais ce qui m'attristait, c'est si les gens partent et ils ne trouvent pas un autre troupeau à se joindre, s'ils restent dans une isolation. Et donc, si jamais quelqu'un de vous veut partir pour une raison ou une autre de cette assemblée, joignez-vous à une autre assemblée, parce que tout seul, ça ne va pas le faire. Il ne faut pas qu'on croie, ah voilà, j'étais blessé. Ça aussi, c'est quelque chose. Hein. J'étais blessé par telle personne. J'aime plus cette église, je vais prendre ce temps de repos. Ça ne marche pas. Il faut que nous nous attachions à une autre église, à un autre corps du Christ. Et je vous encourage par rapport à ça. Là, ça va encore plus loin. Le diable, aux premières photos, il essaie d'attaquer le troupeau. Cette photo-là, qu'est-ce qu'il arrive? Il fuit. Le diable, et pourtant c'est une sacrée bête, hein, on peut dire, tellement musclée, ça nous fait peur. Mais c'est lui qui a peur maintenant, parce qu'il se trouve entouré par tous ces buffles qui ont fait un choix. Et on va lire qu'est-ce qu'ils ont fait comme choix. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Soumettez-vous à Dieu. Je crois une chose que ça veut dire, c'est quand ça bouille à l'intérieur de nous au niveau émotionnel. Quelqu'un nous a blessés ou nous sommes déçus par certaines choses, que souvent le diable utilise ça. Et il veut nous engager dans une voie qui n'est pas la bonne. Et se soumettre à Dieu veut dire des fois aussi, même si je ne suis pas d'accord avec ce frère-là, je vais lui parler en amour et en vérité, mais je vais me soumettre à la parole de Dieu, qui est de aimer les uns les autres. Et Jésus a dit, c'est un ordre. Et donc, quelque chose qui est facile, il ne faut pas donner un ordre. Hein. Les ordres, on donne pour des choses qui sont compliquées. C'est-à-dire pour un soldat, sois ici, fais la garde toute la nuit et laisse tes yeux ouverts. C'est très compliqué, mais c'est un ordre. Et Jésus donne un ordre. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Et je crois, les chrétiens, nous sommes tellement divers, surtout ici dans cette église, que c'est très très compliqué des fois à aimer les uns les autres. Ah, lui, ce n'est pas de ma culture. Ah, lui, il est bizarre. Ça arrive. Mais Dieu nous a positionnés dans cette place et ça ne sera pas mieux dans une autre église, ça, je peux vous dire. Chaque église que j'ai vue, il n'y a pas des gens qui sont parfaits. Hein. Il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes et qui déçoivent aussi beaucoup. Et là, il faut dire que je me soumets à cet ordre de Dieu, mais en amour et en vérité, comme Jésus l'a fait. Donc, de rien dire tout le temps, ça, ce n'est pas une bonne stratégie non plus. Dire, ah ok, il me blesse tout le temps, mais je laisse passer. Il faut qu'un amour et une vérité, si quelque chose se passe, on peut avoir des entretiens un avec les autres. Je crois que j'étais trop rapide. C'est midi et quart normalement. Oui. Donc je suis déjà au dernier diapo, mais c'est pas grave. Parce que Dieu nous dit quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. Nous avons parlé du jugement et Dieu, nous savons par Jean, et Dieu n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Et ça, c'est très très important. Dieu, il ne veut pas juger, il veut que le pécheur se convertisse. C'est ça son principal but. Mais il peut pas empêcher le jugement à un jour ou l'autre. Nous voyons bien l'histoire de Jonas, Ninive. Dieu a montré la miséricorde. Et je crois que c'est pour ça qu'on parle aussi de l'année 2019, donc déjà 2019 ans à peu près, de grâce. Que Dieu n'intervienne pas avec son jugement, mais qu'il laisse passer des années. Parce qu'il y a encore des âmes qui sont sauvées. Mais je crois à l'accélération du temps. Et j'espère de vous montrer ça dans une deuxième partie de cette prédication et une troisième partie éventuellement. L'accélération du temps montre que nous sommes vraiment dans les derniers temps. On peut dire, voilà, ça, ils ont cru il y a beaucoup d'années. Mais je crois que je peux vous montrer quand même certaines choses qu'on trouve dans la Bible qui indiquent que nous sommes dans les derniers temps. Et il faut qu'on soit préparé, qu'on utilise la stratégie de Dieu. Et maintenant, je vais demander à tout le monde de se lever. Un petit exercice, ça peut être un premier. Et faire un geste très très simple, qui ne coûte pas grand-chose. Tenir la main un de l'autre. Vous pouvez aussi reculer un rond, s'il n'y a personne. On va se tenir la main. Juste pas saluer, mais juste tenir la main. Pour symboliser que spirituellement, on veut être unis, comme le troupeau de buffle était uni, on ne laisse pas la place au diable. Si le diable arrive à droite, on va à droite. S'il arrive à gauche, on va à gauche. Et je prie pour ça, que le Seigneur permet à nouveau une unité dans cette église, et quand moi personnellement, j'ai très peu de temps, Robert, les anciens, ont très peu de temps. Mais si chacun prend un petit temps pour l'autre, tout le monde aura un lien avec un autre. Et je prie pour ça. Seigneur, je te prie pour cette église qui a subi plein de choses, Seigneur. Des gens qui sont partis, ça fait nous mal au cœur. Seigneur, des gens qui sont dans la dispute. Des gens qui sont isolés dans la foi. Comme disait Jean-Luc récemment, quelqu'un l'a approché, a dit « J'ai aucun ami dans cette église. » Et Seigneur, il ne faut pas que ce soit comme ça. Je te prie que ce symbole de se tenir la main puisse déclencher un processus dans cette église, qu'on s'approche un à l'autre, qu'on veut connaître l'autre, même s'il est très différent que nous. Et Seigneur, qu'on veut pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, Seigneur. Et je te prie qu'un esprit de pardon puisse venir puissamment à cette église, Seigneur. Qu'un esprit de pardon puisse laver tous ces péchés qui ont été commis. Et Seigneur, que ce soit une église qui reste à nouveau ensemble, Seigneur, qui s'encourage dans l'amour, qui s'exhorte, Seigneur, et qui veut vraiment montrer au monde cette unité, cet amour qui a attiré tellement de monde dans la première église. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui se sont abandonnés, qui font des fois peut-être eux-mêmes leur premier pas, de aller vers quelqu'un et dire « Écoute, frère et sœur ou sœur, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin que quelqu'un prie pour moi, parce que ça ne va pas bien. » Et Seigneur, quand ça va bien, qu'on veille sur les autres, qu'on regarde autour de nous qui ne va pas bien, Seigneur, et qu'on intervienne. Amen. Amen. Vous pouvez baisser les bras.